philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard, le 13 octobre 1993.
Alors, je vais répondre à quelques questions, puis après, nous continuerons. Deux aspects rendent difficile la compréhension de ce que doit être le rapport d'un disciple à son maître. Très général, hein ? D'une part, l'esprit critique comme attitude première de réceptivité à l'égard de l'enseignement empêche une véritable progression, rend l'intelligence stérile. Ça, c'est très juste. Et c'est, quand on a 4 siècles de critiques sur le dos, c'est sûrement une des choses très difficiles pour nous. C'est là où l'aspect de la vie religieuse aide beaucoup. C'est là où un cadre comme le nôtre aide beaucoup. Parce qu'il y a une confiance qui est première, si vous voulez. Saint Thomas nous dit textuellement dans le De Magistro, la première chose pour qu'il puisse y avoir une coopération entre le maître et le disciple, il n'y a pas d'enseignement sans coopération. Il faut qu'il y ait la foi. Fides. Et alors, pas le mot fides. La foi. C'est du reste très intéressant, puisque ça montre l'analogie par rapport à l'enseignement de Dieu. C'est évident, c'est au Moyen-Âge qu'on dit ça. C'est peut-être au Moyen-Âge qu'on doit regarder ce que c'est que l'enseignement. C'était le grand siècle, le moment des universités. L'enseignement n'a jamais été aussi grand qu'au Moyen-Âge. C'est l'âge des cathédrales, c'est l'âge de... Oui. Après, ça dégringole. Ça, c'est sûr. Et pour nous, actuellement, on ne peut pas dire que l'enseignement est à son sommet. Hein. C'est des petits fleuves. Mais d'autre part, la confiance ne peut pas être totale au sens où elle dispenserait de la critique de l'enseignement dispensé. Car l'intelligence serait tout autant stérilisée si elle se passait de s'exercer. S'exercer la pauvreté de ses moyens avec la logique et la critique et s'en tenir à la confiance. Il y a un temps pour tout, comme dit l'Ecclésiaste. Il y a le temps d'assimilation. Et l'assimilation ne peut se faire que dans la confiance. Et il y a un temps pour ensuite soi-même comprendre si on a assimilé ou pas. Vous voyez ? De sorte que je ne dirais pas comme ça, ça c'est une position dialectique d'opposition, comme c'était en même temps. Mais non. Du moins, c'est comme ça qu'il me semble qu'on doit toujours faire. Quand j'écoute une conférence dans une matière où je suis inculte. Mais j'écoute. Et je ne critique pas. De sorte que j'essaierai de comprendre. Avant de critiquer, on ne peut critiquer que ce qu'on a compris. Hein. Je ne peux pas critiquer objectivement ce qui m'a été dit. Mais ce que j'ai compris. Donc il y a toute la phase d'assimilation qui est longue. Et la confiance permet l'assimilation. Ça, c'est sûr. Autrement, on ne choisit plus de maître. Et on devient un autodidacte. Je crois que l'immense avantage d'un enseignement qui se fait à l'intérieur d'une tradition religieuse, même si c'est philosophique, permet la phase d'assimilation. Parce que, autrement, on est tout de suite inquiet par rapport aux examens. Et les examens ne demandent pas l'assimilation, ils demandent la répétition. C'est tout à fait autre chose. Répéter, c'est pas assimiler. Alors, il faut la phase d'assimilation. Alors ça, j'insiste beaucoup, parce que je crois que c'est capital. Deuxièmement, je dirais, si assimilation, on aboutit au bout d'un certain temps à comprendre qu'on est soi-même intelligent et que l'autorité au niveau philosophique est la dernière des raisons. C'est pour ça que répéter, c'est avouer qu'on n'a pas compris. Alors, c'est très bien pour les examens, parce que le professeur n'a qu'à être intelligent et comprendre que c'est une répétition. Mais c'est pas la vie. Et c'est ce qui est très difficile dans l'enseignement de la philosophie. C'est que la philosophie doit passer dans notre vie. Parce qu'on enseigne des choses qui sont vitales. Et on part de l'expérience. Donc on parle de quelque chose que chacun d'entre nous, nous avons expérimenté. Le travail, l'amour d'amitié, et ainsi de suite. Au moins, partiellement, on l'a expérimenté sans quelquefois faire très attention. Et la philosophie est là pour qu'on fasse attention à ces expériences. La philosophie doit nous apprendre à être attentifs aux expériences humaines. Beaucoup plus présent. Lutte contre l'imaginaire. Vous voyez ? Alors, ce second point, vous voyez, moi je mettrais le premier point tout à fait d'accord. Le second point, attention, toute la phase d'assimilation. Alors, seul, on est seul juge. Hein. Il y a des gens qui assimilent très vite, mais quelquefois de façon un peu superficielle. Et on les prend au tournant. On s'aperçoit au tournant. Quand ils répètent ce qui a été dit, ah, c'est pas ça que j'ai dit, tout à fait à côté. Il y a des gens qui assimilent lentement, patiemment. Et je crois que quand il s'agit de la métaphysique, de la philosophie, il faut assimiler patiemment. Il ne faut pas trop vite dire, ah, ça y est, j'ai compris. Non, 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 non. Il faut du temps, il faut du temps. C'est l'avantage, là, c'est évident, c'est l'avantage de la vie religieuse. C'est qu'il y a quelqu'un qui peine aux études. Ce que me disait un bon jeune à Fribourg, c'était un jésuite espagnol. J'ai pas eu beaucoup de jésuites parmi mes étudiants, j'en ai eu quelques-uns. Un bon jésuite espagnol qui m'a dit en souriant, je viens pour ma thèse de doctorat, j'ai tout le temps. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui vous disent ça, parce que je sais que j'ai tout le temps. C'est bien. On ne peut pas dire ça tout le temps. Alors la phase d'assimilation, vous voyez, va impliquer, une fois qu'il y a l'assimilation, va impliquer la critique. J'assimile, je vois ça, est-ce que c'est tout à fait la réalité telle que je l'expérimente ? Vous revenez à l'expérience et vous critiquez en fonction de l'expérience que vous avez, que vous prenez avec une acuité plus grande grâce à ce que vous avez assimilé. Oui. Mais d'autre part, la confiance ne peut pas être totale au sens où elle dispenserait de la critique, de l'enseignement dispensé. On ne critique pas l'enseignement. On critique ce qu'on a assimilé, en premier lieu. C'est là toute la différence. Critiquer l'enseignement, c'est impossible parce qu'il est passé. Oui, mais vous critiquez ce que vous avez assimilé. Alors ça, c'est très juste. C'est la première chose à faire. Ce que vous avez assimilé par rapport à votre expérience. Et là où se pose le problème, la question. Oui. Parce que critiquer l'enseignement dispensé, c'est très difficile. Vous le recevez de telle manière, mais oui, un autre. C'est pour ça que certains critiqueront, d'autres critiqueront pas. Là, on peut critiquer. C'est pas ça la recherche de la vérité. L'enseignement n'est pas un absolu. C'est pour vous. Pour vous l'enseignement. Et alors, cet enseignement, il est pour vous. Mais c'est pour que vous attirez la vérité. Et votre critique, c'est en vue de la vérité. C'est vous. Vous vous critiquez en premier lieu. Toute critique est authentique quand on se critique en premier lieu. Oui, c'est toujours ce que je vous ai dit. Quand vous critiquez un forgeron. Je prends ça parce que ça c'est très très visible. Vous critiquez un forgeron. Dis, mon vieux, tu fais très mal tes fers à cheval. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là si vous avez un vieux forgeron? Allez, fais-en un. Puis on verra après. Mais pas de critique avant. Et c'est très juste. La critique d'art implique qu'on ait fait quelque chose. Autrement, c'est une critique littéraire. La philosophie ne critique pas l'art. Elle apprend à comprendre ce que c'est qu'une œuvre artistique. Ce que c'est que l'inspiration artistique. Vous voyez ? La philosophie n'est pas faite pour critiquer l'enseignement. Si vous critiquez l'enseignement, vous ne pouvez pas critiquer l'enseignement. Sauf si alors, vous êtes vous-même quelqu'un qui enseigne. Et alors à ce moment-là, on verra. Vous enseignez, l'autre enseigne, vous attirez tout le monde. Je vais là. C'est beaucoup plus intéressant. Très bien. Pas la peine de critiquer. Il suffit de voir le résultat. Et c'est pour ça que c'est très intéressant, ça. Parce que ça montre justement qu'au fond, on n'écoute pas pour critiquer. On écoute pour chercher la vérité. Et on critique ce qu'on a compris. À partir de notre expérience. Et on voit que ça ne colle pas. Et là, on se pose une question. Et alors, on pose une question. Comment se fait-il? Vous avez dit ça. Et puis, moi, je vois que c'est pas ça. Comment ça se fait? Alors, l'autre dit, ah, mais vous avez mal compris. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Vous voyez? Donc, on ne critique pas l'enseignement, on le reçoit. Autrement, c'est plus un acte de miséricorde. Est-ce que vous critiquez un acte de miséricorde? L'enseignement est un acte de miséricorde pour enlever l'erreur et permettre de découvrir la vérité. Donc, vous vous critiquez vous-même. Ensuite, vous essayez vous-même d'enseigner. Et alors, quand vous enseignez, vous pouvez comparer. Mais vous ne critiquez l'enseignement que quand vous-même vous voulez enseigner. Parce qu'alors vous êtes au même niveau. On critique quelqu'un qui est au même niveau. On ne critique pas quelqu'un qui n'est pas au même niveau que nous. Parce qu'on reçoit mal la douche, tout simplement. On peut très bien se mettre tout à fait en dehors du jet de la douche. Et ça ne marche pas. Mais voyez pas, n'est pas en dessous. Et c'est comme ça qu'on fait la critique, évidemment. Parce qu'on ne reçoit pas l'enseignement qu'on donne. L'intention du maître, c'est quoi? Est-ce que c'est de s'exalter ou d'enseigner la vérité? De conduire la vérité? Un enseignement est fait pour ceux qui écoutent. En vue de la vérité. Et on fait une œuvre commune. Tout en enseignant, on s'éduque. On fait une œuvre commune. Et tant qu'on fait une œuvre commune, l'enseignement est vivant. Le jour où on ne fait plus une œuvre commune, il n'y a plus d'enseignement. C'est la même chose pour l'obéissance. Donc, alors, vous voyez, l'intelligence serait tout autant stérilisée si elle se passait d'exercer. Il y a là une chose qui me voit qualité de l'enseignement vient qu'on ne touche pas la source. C'est pas mon enseignement qui vous rendra fertile. Non. C'est si vous remontez à la source. C'est en remontant à la source que notre intelligence devient féconde. C'est quand on ne remonte pas à la source que notre intelligence se stérilise. Alors on joue aux conclusions. Et on se bat sur les conclusions. Alors ça, on peut se battre indéfiniment. Vous voyez, c'est ça qui est très important à voir. C'est très curieux, ça. Dans la mesure où on remonte à la source, on est capable d'enseigner. Si on ne remonte pas à la source, on est incapable d'enseigner, puisqu'on répète. Et dans la mesure où on remonte à la source, on sait bien qu'on a reçu un enseignement. Et on ne critique pas l'enseignement qu'on a reçu. Il a permis de remonter à la source. C'est merveilleux. Je crois que c'est quand on ne remonte pas à la source qu'on se met à critiquer. Et la critique devient fausse. Ça blâme. Oui, c'est toujours la femme stérile qui critique la femme féconde. Et le jugement de Salomon vient là. Faut pas oublier. Et d'où vient la fécondité de l'intelligence? C'est quand elle touche la source. Dans la contemplation. Les conclusions scientifiques ne nous rendent pas féconds. Et ne rendent pas féconde notre intelligence. Il faut remonter à la source. S'il y a des questions là-dessus, vous les mettrez. En bref, quelle doit être la juste place de l'esprit critique lorsqu'on reçoit un enseignement? Vous avez parfaitement le droit de critiquer ce que vous avez compris. Puisque vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas le critiquer. Parce que vous n'avez pas compris. Donc on ne critique pas un enseignement. On critique ce qu'on a reçu. C'est très curieux, ça, mais c'est comme ça. Alors, un maître qu'on reçoit, qu'on écoute son enseignement, le jour où vous dites, ça ne me sert plus à rien, ça c'est votre affaire. Et vous critiquez l'enseignement en en prenant un autre, tout simplement. C'est la meilleure des critiques. Et c'est la seule critique. Vous faites ça couramment, hein. Dans la vie on fait ça couramment. Dans le commerce, c'est ce qu'on fait. On quitte quelqu'un parce que c'est trop cher ou ça ne donne pas ce qu'on a le droit. On critique pas, je ne veux pas critiquer le commerçant du coin, on le quitte. Donc je le quitte, j'en prends un autre. Et la grande critique, c'est d'en prendre un autre. La grande critique d'un enseignement, c'est d'en prendre un autre. Et pourquoi le critiquer? À quoi ça va servir? On dira, vous avez mal compris. Oui. La critique se porte sur ce que nous avons compris. Donc c'est tout. En premier lieu. Ensuite, vous pouvez critiquer. Mais vous pouvez critiquer un enseignement, pas lui copier un enseignement donné au très bien. Mais pas ce que vous avez compris. Vous pouvez pas, à partir de ce que vous avez compris, critiquer l'enseignement. Parce qu'on vous dira toujours, vous avez mal compris. Ça, vous pouvez être sûr, d'avance. Vous n'êtes pas mis sur le G direct de la douche. Vous n'avez pris qu'une partie. Qu'est-ce que la scolastique? Qu'est-ce que la dialectique? La scolastique. La scolastique naît le jour où on ne remonte plus à la source. C'est pour ça que la scolastique est inféconde. Quand elle est totale, vous voyez. C'est l'école, la scolastique. C'est l'école, donc c'est la répétition. C'est quelqu'un qui enseigne Saint Thomas en répétant, parce que c'est Saint Thomas, je vous l'enseigne. Mais non, vous enseignez Saint Thomas parce qu'il atteint la vérité. Autrement, vous ne l'enseignerez pas. C'est parce qu'il atteint la vérité et que vous-même, en prenant Saint Thomas, vous avez atteint la vérité. Et la scolastique consiste à être, oui, au fond, classique est analogue, vous comprenez bien ce que je veux dire, hein, à ce que représente celui qui n'est ni chaud ni froid. Alors, il communique les conclusions. Communiquer les conclusions sans les reprendre à la source, c'est la scolastique. Et on fait une scolastique de tout. Mais l'école, en peinture, on répète. Alors c'est fatigant. Dans un musée, on trouve tout de suite l'école. C'est la scolastique, l'école. Alors, ça peut être très utile. Je ne dis pas du tout que c'est condamnable. Mais ce n'est pas le maître. Il faut quelquefois l'école pour qu'il y ait des maîtres qui apparaissent dedans. Il faut beaucoup de petits prophètes pour qu'il y ait un grand prophète. Toujours le phénomène de la quantité et de la qualité. La scolastique est du côté de la quantité. On répète, on passe des examens. Mais il faut ça, c'est nécessaire. Il y a une part de scolastique. Tout le temps. La scolastique, si vous voulez, c'est la méthode. Toute méthode est scolastique. Vous voyez, Descartes critique la scolastique et fait une autre scolastique. Puisqu'il met la méthode avant tout. Et quand vous mettez la méthode en premier lieu, c'est la scolastique. Ça en fait pas mal de scolastique, hein. Quand un psychanalyste dit « j'applique la méthode », très bien, saluez le scolastique. Vous êtes dans la scolastique freudienne. Freud n'appliquait pas la méthode, il l'invente. C'est pas la même chose. Il ne devrait pas l'inventer. Il devrait voir que c'est un art. Soigner quelqu'un qui est bon. Alors on peut donner quelques voies d'accès comme dans l'art. Mais quand vous donnez, voyez, 100 grammes de farine, 50 grammes de sucre, vous mettez une méthode pour faire un gâteau. Hein. Ça fait quelque chose de succulent. Parce que tout dépend de la manière dont vous le mettez. Alors, la scolastique au sens le plus général. Hein. Regardez dans le dictionnaire de théologie, de philosophie, la langue. La scolastique, c'est toujours quelque chose de second. C'est pas premier. Et la réflexion de cet étudiant à Fribourg, posant la question au pape. Nous avons beaucoup de professeurs, mais pas de maîtres. Le professeur, comme professeur, peut donner une méthode de travail. C'est très bien, il faut des méthodes de travail. Il en faut. Si on ne donne que des méthodes de travail, on n'éveille pas l'intelligence. La méthode de travail est bonne pour l'efficacité. C'est l'aspect logique. Alors qu'est-ce que la dialectique ? La dialectique, elle a pris des formes très différentes. La dialectique de Platon, la dialectique de Hegel. La dialectique... Alors, ce qui est très étonnant, vous voyez, qu'Aristote situe la dialectique au niveau des opinions. Et ça, je crois que c'est génial. La dialectique est très bien au niveau des opinions. Pourquoi ? Parce que on oppose. La dialectique, c'est un procédé d'opposition. Et la grande lumière, c'est la guerre et le père de toute chose, d'Héraclite. La guerre est le père de toute chose. Alors, psychologiquement, vous savez bien, il y a des psychologues qui sont des psychologues qui maintiennent des états de guerre. Parce que dans des états de guerre, on domine. Il y a des gens qui aiment la guerre pour dominer. Et c'est vrai qu'en état de guerre, il y a des tas de choses d'invention qui se font. C'est un fait, parce qu'il y a un état de tension. Alors la dialectique maintient un état de tension, pour qu'à partir de cette tension, quelque chose arrive. L'œil apparaît. Oui. Alors, il y a une dialectique très... très, très consciente. Prenez la dialectique du Parménide dans le dialogue du Parménide de Platon. Vous avez là quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Si on avait le temps, on fait un séminaire sur la dialectique de Platon dans le Parménide. Il faut au moins avoir lu une fois dans sa vie ça. Il faut se tenir, hein. Il faut se tenir, c'est pas très drôle. C'est extraordinairement intéressant de voir comment Platon critique sa propre dialectique et voir comment la dialectique se situe chez Platon. Elle se situe au niveau des formes. Pour Aristote, elle se situe au niveau des opinions. Parce que pour lui, la grande démarche philosophique, ce n'est pas la dialectique, c'est l'analogie. Face à l'analogie, la dialectique existe au niveau de la rhétorique. Si vous êtes un bon rhéteur, manœuvrez avec la dialectique. Vous montrez les oppositions, vous montrez l'état de guerre. Alors c'est extraordinaire, ça. Ça éveille l'intelligence. La dialectique, c'est fait pour éveiller l'intelligence, pour Aristote. Alors ça, c'est excellent. Éveiller l'intelligence, c'est ce que saint Thomas dit. Je connaissais un bon thomiste qui disait saint Thomas, c'est un dialecticien de premier ordre. Il vaut des objections et les réponses. Oui, mais n'oubliez pas qu'il y a le corps de l'article. Si saint Thomas mettait les objections, les réponses, alors il pourrait être un dialecticien. Mais ce qui est intéressant dans saint Thomas, c'est le corps de l'article. Là, on trouve l'analogie. Et on se sert de la dialectique pour répondre aux réponses, ou pour répondre aux questions, et pour animer le jeu. C'est une dispute. Une dispute est animée par la dialectique. Elle commence par la dialectique. Mais si je reste toujours au niveau dialectique, je ne donnerai pas de corps de l'article. Je ne donnerai pas de vraie réponse. La réponse, c'est de dépasser ça. C'est de retrouver en dépassant. La dialectique de Platon est dépassée par la contemplation. La dialectique d'Aristote est dépassée par l'analogie. La dialectique de saint Thomas est dépassée par l'analogie. La dialectique hegelienne n'est dépassée par rien. Elle est la pensée. D'où plus de contemplation. Au sens strict. C'est quasi infini. Nous, nous nous formons en comprenant ce qu'est l'analogie. Nous nous formons en découvrant les principes propres qui nous permettent, les principes propres des différents domaines qu'on étudie par rapport à l'homme. Et nous nous servons de la dialectique quand on regarde les opinions des philosophes. Ce que j'appelle topique historique. Alors, on devrait se servir de ces topics historiques de façon beaucoup plus dialectique que je le fais. Si on avait le temps. Mais pour montrer pourquoi il y a opposition. Et comment il y a opposition. Et comment on nourrit les oppositions. Il y a des gens qui sont merveilleux au point de vue dialectique, qui maintiennent une discussion indéfinie. Parce que pour eux, le but, c'est de maintenir la discussion. C'est d'éveiller des questions. Si le but, c'est la recherche de la vérité, on ne va pas s'engouffrer indéfiniment dans la dialectique. On veut la dépasser. Là, je continue. Toujours, qu'est-ce que c'est que pour nous la philosophie première ? Que doit être pour nous la philosophie première ? Et je prends exprès philosophie première pour qu'il n'y ait pas d'équivoque. Parce que métaphysique aujourd'hui, c'est rempli d'équivoques. Vous voyez, on dira une peinture métaphysique. On ne dira pas une peinture philosophie première. Ce qui vous montre bien que le terme métaphysique, il est mis à toutes les sauces. cuisine européenne qu'à la cuisine mexicaine. Alors, il est mis à toutes les sauces. Tandis que philosophie première, c'est quelque chose de très précis. C'est le terme d'Aristote et que Husserl l'emploie. Donc c'est très à la mode, philosophie première. Ce n'est pas périmé. Tandis qu'il y a eu un enterrement de première classe de la métaphysique par Heidegger. Alors c'est pas la peine de montrer que Heidegger a regardé une métaphysique qui n'est pas du tout la nôtre, qui est celle de Wolf, qui est celle de... Très bien, laissons tomber ça. Et puis prenons le terme qui est en dehors de toutes les discussions philosophie première. Nous avons essayé de comprendre, au point de vue historique, comment la philosophie première naît avec Aristote. Et comment, immédiatement après Aristote, elle disparaît. Comment Thomas d'Aquin, lui, avec Maxime le Confesseur, reprennent la philosophie d'Aristote. Mais faisons attention, ils reprennent la philosophie d'Aristote, non pas pour elle-même, mais pour réaliser une théologie scientifique. Alors là, il y a tout un problème très important, qui est un problème de théologie, et de théologie fondamentale. Comment seule une philosophie première peut nous permettre de découvrir une théologie scientifique. Je ne traite pas ça ici, hein, mais c'est à traiter. Je dis tout simplement, ici, que saint Thomas a eu bon goût de revenir à Aristote, et un Aristote pur, et non pas un Aristote mêlé à l'aspect du néoplatonisme comme Avicenne. Alors, ce qu'il y a eu d'assez terrible, c'est que l'Université de Paris, la Sorbonne, a condamné Thomas d'Aquin, certaines thèses de Thomas d'Aquin. Et la Sorbonne n'a pas accepté ce retour aux païens. On aimait mieux Avicenne que Aristote, parce que Avicenne était un croyant. Il était musulman, il était croyant. Vous voyez, toujours la même question, est-ce qu'on recherche la vérité ou est-ce qu'on ne recherche pas la vérité? La vérité peut-être chez un païen, l'erreur peut-être chez un musulman. La vérité peut-être chez un musulman et l'erreur peut-être chez un païen. L'erreur peut-être chez un catholique. Le catholique n'est pas infaillible parce qu'il est catholique. Bien dommage, je fais pas partie de la grâce du baptême. Pas encore. Je fais pas partie de la grâce du baptême. On n'est pas infaillible parce qu'on est catholique. On peut errer. On le sait. Et le catholique doit être humble. Donc il doit savoir qu'il peut errer. Du fait même qu'on a condamné Thomas d'Aquin, il y a eu le retour à Avicenne avec Don Scott, Henri de Gand et Don Scott. Et alors après, avec un respect vis-à-vis de saint Thomas, mais purifiant saint Thomas pour ne pas tomber sous la condamnation de la Sorbonne. On comprend très bien ça, c'est normal. Dans les choses humaines, c'est comme ça que ça se passe, puisque la Sorbonne avait autorité. Avec pouvoir ou autorité, je sais pas. C'est un fait. Et alors, on est arrivé, ensuite, 14e, 15e siècle, à des positions extrêmement multiples et diverses au point de vue théologique. D'où, dans cette diversité, un doute est né. À l'intérieur de la théologie est né. Et par le fait même que le doute est né à l'intérieur de la théologie, on comprend la position de Descartes. Peut-on avoir une certitude en dehors de la foi? Peut-on avoir une certitude philosophique? Vous voyez, la réaction de Descartes n'est pas mauvaise, hein, elle est même bonne. Où y a-t-il certitude? Parce qu'on est en face d'un doute. fille devient un doute général, généralisé en théologie. Et Descartes, c'est ça. Où trouver une certitude? C'est pas la vérité, mais c'est la certitude. Et c'est là où Descartes n'a pas été assez loin. Si Descartes avait cherché la vérité, il n'avait pas pris cette orientation. Il a trouvé la certitude dans le repli de l'esprit sur lui-même, voulant faire de l'esprit une substance pensante. C'est extrêmement significatif. Il y a la substance quantifiée, le corps, et la substance pensante. Et donc Descartes introduit dans l'homme une dualité. Et la substance pensante atteint la certitude. Certitude qui, pour Descartes, est une certitude indépendante de la foi. Et alors, on entre dans une certaine philosophie de l'esprit, on devrait dire une philosophie de la substance pensante. Ce serait peut-être là beaucoup plus astucieux, parce que c'est vraiment la philosophie de la substance pensante, comme si l'homme était une substance pensante. Et comme c'était ça l'esprit. Et on a identifié ensuite substance pensante et esprit. Et on a eu à partir de là une philosophie de l'esprit. Et on s'est demandé si cette philosophie de l'esprit pouvait rejoindre la métaphysique classique. Une philosophie de l'être. Et on est tombé dans les idéologies. Primat de l'idée. Le premier qui a réagi violemment contre les idéologies, de droite ou de gauche, c'est Heidegger. Ça, il faut lui reconnaître. Il faut lui reconnaître ce mérite. Parce que pour lui, s'il y a idéologie, il y a incapacité d'atteindre l'être. Et c'est pour ça que pour lui, toutes les idéologies, à partir de Descartes, et même avant, sont des idéologies qui cachent l'être. Je ne peux pas atteindre l'être à partir de l'idée, à partir du concept. Et c'est pour ça que farouchement, il dit, il n'y a pas de concept de l'être. Il y a une certaine grandeur dans Heidegger. Vous voyez, face aux idéologies, je crois qu'il aurait plu plutôt de dire l'oubli de l'être, c'est juste de dire ça, mais dire quelle est la cause de l'oubli de l'être. Et alors, à partir de ce moment-là, il serait revenu à l'expérience. Mais comme il regarde l'oubli de l'être, il veut redécouvrir l'être à partir de la substance pensante. Il ne dit pas ça du tout, hein. Dis-moi qu'il dit ça. À partir de la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Mais voyez, en réalité, quand Heidegger dit qu'est-ce que c'est que l'être, c'est l'esprit qui dit ça. Et l'esprit séparé du corps. L'esprit qui ne rejoint pas l'expérience. Donc c'est bien la substance pensante. C'est extraordinaire comme la substance pensante a été quelque chose de fort. Ce que je crois, ce serait intéressant du reste. Est-ce que Heidegger a dépassé la substance pensante de Descartes? Posez-vous la question, ça vaut la peine. Parce que je ne crois pas que ça ait été posé comme question. Ce serait intéressant de voir ça. Toujours est-il que nous le voulons dépasser la substance pensante de Descartes. Parce qu'on ne peut pas accepter que dans l'homme, il y a un dualisme entre substance quantitative, le corps, et substance pensante. L'homme implique une unité. Et la philosophie est là pour montrer que l'homme ne peut être homme que s'il est, que s'il découvre l'unité de son être. plénité de sa pensée. Alors, face à Descartes, face à Heidegger, où il y a quelque chose de semblable, pouvons-nous aller plus loin et redécouvrir vraiment ce qui est en tant qu'il est? Toute la question est là, pour nous. Oui, si on veut se situer par rapport à la pensée moderne, par rapport à la pensée actuelle, Heidegger reste quand même, pour nous, hein, presque un contemporain. J'aurais pu aller le consulter. Je ne l'ai pas fait. J'aurais pu aller le consulter. J'ai vu des étudiants qui allaient le consulter. Ils sont venus heideggeriens. C'est toujours intéressant de voir ça. C'était très et très curieux, les cours de Heidegger, paraît-il, hein, parce que je ne les ai pas écoutés. Mais c'était quand même quelque chose d'assez éprouvant. Et quelque chose qui maintenait une certaine noblesse de l'intelligence. L'ontologisme fondamental, c'est comme ça qu'il l'appelle. Alors, l'ontologisme a toujours une certaine noblesse de l'intelligence. Mais le seul inconvénient, c'est que c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que il ne saisit pas l'unité profonde de l'être humain. Et j'ai quand même l'expérience de l'unité de l'être humain. Quand même l'expérience que mon corps n'est pas quelque chose de séparé de mon intelligence. Et il y a des quantités d'arguments qui sont là pour montrer que mon corps n'est pas séparé de mon intelligence. La preuve, c'est que si je reçois une balle dans la tête, je peux très bien quelquefois ne pas mourir. Un petit éclat, si vous aimez mieux. Mais de ne plus pouvoir penser. Je vous ai dit, quand je suis arrivé à Fribourg, il y avait un chirurgien à l'hôpital cantonal qui faisait merveille. On lui a amené des vieux, des grands-pères un peu grincheux, qui avaient des colères un peu terribles. Il faisait une petite opération, il rendait le client aux parents. Il était réduit à une intelligence de 4 ans. Mais il n'avait plus ses colères. C'était tout ce que les héritiers demandaient en attendant sa mort. Et le gouvernement a arrêté ça. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que le gouvernement même une aspiration chrétienne. On n'avait pas le droit de toucher comme ça les idées de l'homme. C'était très intéressant comme cas. Et l'intervention de l'État. On a demandé à ce cher chirurgien en reconnaissant son génie, parce qu'il était génial. Il n'avait pas beaucoup de sens éthique. On lui a demandé de quitter. Le canton de Fribourg, je ne sais pas où il est parti. Ce qui m'a intéressé, c'est le cas. Oui, vous pouvez très bien arrêter l'exercice de l'intelligence. Ce qui prouve que l'exercice de l'intelligence dépend du corps. Ce que Aristote a dit, ce que Thomas d'Aquin a dit, que l'exercice de mon intelligence dépend de l'imagination. Et mon imagination dépend de mon corps. Alors ça, c'est très très intéressant. Si l'exercice de mon intelligence dépend de l'imagination, de l'image, je peux donc détecter et arrêter l'exercice de mon intelligence. Mais ça ne veut pas dire que mon intelligence est corporelle. Ça veut dire que l'exercice de mon intelligence humaine dépend de mon corps. Ce qui montre l'unité profonde qui existe en moi, puisque mon exercice vital, le plus spirituel qui soit, est toujours lié à l'imaginaire. Ça explique beaucoup de choses pour vos oraisons. Et saint Thomas n'hésite pas de dire que les actes les plus éminents de la vie mystique sont liés à l'imaginaire. Liés dans leur exercice. Pas dans leur détermination. Que seule la vision béatifique est extatique. Dans la vision béatifique, on ne sera plus dérangé par l'imaginaire. C'est pour ça qu'on aura un repos. Et que nos oraisons ne sont jamais un repos. Parce que si vous le voulez le repos, vous avez un repos imaginaire. C'est-à-dire que vous arrêterez la lutte et vous vous laisserez aller au flux et au reflux de votre imaginaire, de ce petit lac intérieur. Le repos n'existe que dans la vision béatifique. C'est étonnant, hein, cette vision réaliste de Thomas d'Aquin, qui fait que toutes les découvertes scientifiques confirment ce que dit Thomas d'Aquin. Et on dira qu'il n'est pas réaliste et on ne voudra pas le regarder. Et on se mettra à la remorque d'idéalistes qui n'expliquent pas du tout ce que la science nous montre. Ou bien alors on abandonnera complètement la philosophie et on se mettra à la remorque de la science et on deviendra positiviste. C'est quand même très intéressant de voir que le grand problème d'aujourd'hui, c'est le problème de l'âme. C'est le grand problème. Je vous ai déjà dit, le premier voyage que j'ai fait en Grèce, on était invité par la Grèce, et c'était en tant que professeur de l'université de Fribourg que j'étais invité. Premier repas avec les professeurs, dits orthodoxes, chrétiens. Puisque vous enseignez la philosophie, mon père, parce que j'étais en habit dominicain, donc vous pouvez. Mon père, est-ce qu'on peut croire en l'immortalité de l'âme humaine? Étant donné ce que nous dit la science biologique. Et des étudiantes de médecine m'ont posé la même question. En ajoutant, nos papas ne nous donnent pas de réponse quand on leur pose ces questions-là. Oui, c'est vrai, c'est la question. Autre question, autre réponse d'un groupe de chrétiens, philosophes et théologiens, l'âme n'est plus sur le marché philosophique. Donc n'en parlons plus. C'est curieux parce que ça a été le grand problème de Platon, ça a été le grand problème d'Aristote. Tous les deux sont les philosophes de l'âme. Avant tout, et par l'âme, philosophe de la philosophie première. C'est le problème de l'âme humaine qui est le problème philosophique numéro un aujourd'hui. Parce que si l'âme humaine n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'âme spirituelle. Et mon âme spirituelle n'est pas une substance pensante. Ça, c'est Descartes. Mon âme spirituelle est une âme qui informe le corps et, selon l'expression de Thomas d'Aquin, n'est pas totalement immergée dans le corps. Difficile à bien comprendre, hein, n'est pas totalement immergée dans le corps. Il y a, je ne dis pas une partie de l'âme, parce que l'âme n'a pas de partie, mais il y a quelque chose de l'âme qui reste spirituel. D'où émerge l'intelligence, la volonté, comme puissance spirituelle de mon âme. Mais l'exercice de ces puissances spirituelles, donc l'intelligence qui émane de l'âme spirituelle est capable d'atteindre la réalité en tant qu'elle est, en tant qu'elle existe. Est capable d'atteindre dans le devenir l'être. Tout le problème est là. Savoir, il faut en avoir l'expérience, et pas seulement dire Thomas d'Aquin dit ça, donc on dit ça, Aristote dit ça, donc on dit ça, très très bien ça, c'est pas suffisant, il faut en avoir l'expérience de l'intériorité spirituelle de l'âme, de mon âme, parce que c'est à partir de là que il y a une exigence de la métaphysique, de la philosophie première. Si mon intelligence par elle-même est incapable d'atteindre ce qui est en tant qu'il est, pas la peine. La métaphysique n'existe pas, c'est un mythe. Ça pourrait être un mythe après tout. Pourquoi pas ? Un très beau mythe, le mythe des anciens. Ils n'avaient pas la foi. Alors ils avaient inventé qu'on a en soi quelque chose qui est merveilleux, qui est lumineux, qui est ma lumière. C'est comme la lumière, comme dit Aristote, l'intellect agent. Il y a en moi quelque chose qui illumine tout ce que je vois. Mais devant la foi, c'est plus la peine, on a la foi. Alors laissons-les, puis c'est tout. Discuter indéfiniment dans leur positivisme. Alors, pourquoi qu'on lutte ? On lutte parce que c'est la vérité. Et j'ai pas le droit de laisser mes frères dans l'erreur. La foi n'est pas faite en premier lieu pour me donner la connaissance de ce qui est en tant qu'être. Mais la foi est faite en premier lieu orienter toute ma vie vers la vision béatifique. Mais ma foi peut réveiller mon intelligence. Pour Hegel, la foi ressuscite l'intelligence. Pour nous, la foi réveille l'intelligence de sa torpeur de marmotte. Parce que tout dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre culture d'aujourd'hui, met l'intelligence dans un état de torpeur. C'est vrai. Le positivisme met mon intelligence dans un état de torpeur. Alors, je dois la réveiller. Et la foi est sûrement quelque chose de merveilleux pour réveiller mon intelligence. Puisque si je suis croyant, je sais que mon intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. L'existence d'un être premier. Je ne peux pas mettre ça entre parenthèses. Je ne serai plus croyant. Je serai positiviste. Et ça va très loin, ça. Et dans un état de crise comme le nôtre, quelquefois, c'est la seule bouée de sauvetage pour beaucoup d'entre nous. La foi me dit, mon intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu. Si mon intelligence humaine est capable d'atteindre l'existence de Dieu, il faut que je touche le lien qui existe entre ce que je suis et Dieu. Et quel est ce lien ? Ça ne peut être que l'être. Et donc, je dois essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'être, d'où la métaphysique. Mais ceci, pour être sauvetage, pour le philosophe chrétien, c'est pas suffisant. la nécessité d'une philosophie première. C'est-à-dire passer de ceci est à je suis. Et comprendre que toute la philosophie s'achève dans cette connaissance du je suis, assumant ceci est. Oui, c'est ça notre travail. Et ce travail auquel on revient tout le temps, de mille façons. Alors, quand on est croyant, on a la bouée de sauvetage. Quand c'est trop fatigant. Et on dort sur un petit coussin au milieu de la tempête, en très bonne compagnie de Jésus. Un petit coussin. Et la foi devient ce petit coussin pour mon intelligence humaine. Mais quand Jésus se réveille, il veut que nous nous réveillions aussi. Et que notre intelligence soit capable par elle-même de voir le lien qui existe entre ceci et la personne.